peu de fort, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que quand on parle souvent de gonflette, là tu me disais la gonflette, c'est quoi? Est-ce que ça existe vraiment la gonflette? En réalité, non, on verra que on en parlera un petit peu.
Bonjour à tous et bienvenue sur Level Up, le podcast de Intuitive Training, l'émission qui aborde tous les sujets liés à l'entraînement, la nutrition et la récupération. Je suis Eleanor, toujours athlétique intuition sur les réseaux, et aujourd'hui, je suis accompagnée de mes deux acolytes et associés préférés, Thomas Tapti, ou Wild South Trainer sur Instagram, et Nicolas Florisson, plus connu sous le nom de Tarzan from the Town. On est absolument ravis de vous accueillir pour ce nouvel épisode, on espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions ou à nous soumettre des idées de sujets sur Instagram, @intuitivetraining.fr, on sera vraiment ravis de pouvoir les traiter dans les prochaines semaines du podcast. Sans plus attendre, je vous laisse avec la conversation du jour. Bonne écoute! Vous êtes prêts, les gars?
On est prêts.
Écoute, vas-y, on va voir ce que ça...
Vas-y, écoute, on va y aller.
Ok, go. Salut Tom, salut Nico.
Salut.
Comment ça va?
Ça va.
Bien et toi?
On est bien.
Super, on est dans la salle de Thomas, dans le 15e à Paris.
Le QG.
QG à Kajim. On est assis à
Centre d'entraînement.
Ouais, je me suis entraînée juste avant.
Il y a tout ce qu'il faut. Hein.
J'ai fait ma séance de
muscle. Il n'y a pas de machine.
Non, il n'y a pas de machine.
Mais
pas
autant vous dire que.
C'est vous les machines.
Il y a des solutions.
Ouais, grave.
Il y a des solutions partout.
Ouais.
Aujourd'hui, on va traiter un sujet un petit peu technique, mais ça va être très cool. C'est que de la gonflette.
C'est que de la gonflette,
c'est
bonhomme.
Que de la gonflette, bonhomme.
Du volume.
On va parler de force. On va parler des différents facteurs de force. En fait, on a eu cette idée de sujet de podcast de l'une de nos auditrices qui se demandait, en fait, qui pensait que la force était uniquement issue d'un développement musculaire et qui, à travers certaines conversations, s'est rendu compte que potentiellement la force, la construction de la force était beaucoup plus complexe que ça. Donc aujourd'hui, je trouvais très intéressant de rentrer dans un podcast un petit peu plus technique. Donc on va avoir principalement Tom qui va nous driver en tant que formateur BP. Donc lui, il a l'habitude de donner ce genre de cours. Donc il va nous faire un petit cours aujourd'hui via ce podcast pour nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'est la force, comment elle se construit, d'où elle est issue. Parce que, à l'image de. On va en parler tout de suite, mais de mecs qui sont extrêmement balèzes, on va prendre les extrêmes. Le mec qui fait du strongman et qui soulève des charges assez hallucinantes, et à contrario, des mecs qui. Ou des nanas qui sont très queuses, très fines, et qui, en street workout, qui font des trucs qui demandent aussi des forces assez hallucinantes. Les deux, on est sûr de la force. Alors. Sans doute des forces
bien sûr,
qui sont
sûr.
Différentes, mais avec des physiques qui sont complètement différents. Pareil, en haltérophilie, on peut avoir. On parlait tout à l'heure, tu disais, Nico, de Turcs qui ont des.
Oui, t'as la partie Moyen-Orient, Russie.
Fort comme un Turc, on dit.
Ouais, voilà, tu les vois physiquement, ils sont.
Ou des mecs sur les chantiers qui sont un peu costauds, qui soulèvent quand même.
Et de l'autre côté, t'as les Asiates, je pense aux Chinois qui eux ont. Pas un pet de graisse et qui arrive à soulever des barres qui sont juste incroyables et pourtant ils ont des physiques
beaucoup moins imposants.
Voilà. Donc forcément c'est que musculairement, alors il y a des ça apporte des choses, mais il y a sûrement des choses sous-jacentes qui sont intéressantes à développer.
Voilà.
Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que quand on parle souvent de gonflette, là tu me disais la gonflette, c'est quoi? Est-ce que ça existe vraiment la gonflette? En réalité non, on verra que on en parlera un petit peu plus, mais c'est vrai que on utilise souvent ça, lui il est balèze, mais lui il est pas balèze et il arrive, donc on verra que c'est l'exploitation productive de la force par rapport à l'un et l'autre, mais on va voir ça dans un instant.
Allez, c'est parti. Donc sujet, on va commencer peut-être par le début, par peut-être vraiment pour me poser les bases, définir un peu ce qu'est la force qu'on entend par là, parce que il y a différents types de force. Enfin, vas-y Tom, lance-toi, c'est parti.
Si on évoque, bon déjà on parle... Là, tu me parlais des strongman qui sont excessivement lourds, qui vont avoir forcément une force absolue qui est énorme, parce que, en fait, de par finalement le poids qu'ils ont, on va voir que ça va quand même les aider. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand tu es strongman, qu'est-ce qui fait qu'arriver à un certain niveau, c'est quand même des mecs imposants. C'est des mecs imposants parce que leur activité leur demande de soulever des charges énormes. Donc, effectivement, qu'à un moment donné, pour pouvoir quand même déplacer des charges énormes, le fait d'avoir de la masse et de créer de l'inertie par rapport à la charge que tu vas opposer va être important.
Explique rapidement la différence entre
Force relative et force absolue.
Oui.
Alors, la force relative, c'est indépendamment du poids que deux personnes vont faire, quelle est la charge qu'ils vont être capables de soulever. Okay. Et ben, donc ça, de manière absolue, par exemple, si on prend Nico et moi, on n'a pas le même poids de corps, mais peut-être que, c'est pas le cas en l'occurrence, mais peut-être que, imaginons qu'on ait un RM qui soit le même, et ben, de manière absolue, on va avoir la même force par rapport à cette charge déplacée, mais de manière relative, étant donné qu'il est plus léger que moi, il va avoir une force supérieure.
Okay.
Donc, on sait qu'il y a certaines activités où, en plus de ma force absolue, il va falloir que ma force relative, donc relativement à mon poids de corps, augmente aussi. C'est-à-dire que si à un moment donné, j'augmente mon 1RM, notamment si on prend l'exemple du street workout ou même de la gymnastique, mais que ma capacité à pouvoir déplacer mon propre poids de corps diminue, ma force liée à ma capacité à déplacer mon poids de corps diminue, c'est pas pertinent pour cette activité-là. Donc, ce qui est important déjà de savoir...
Mais c'est pas parce que t'as l'un que t'as l'autre.
C'est pas parce que t'as l'un que t'as l'autre, exactement.
C'est deux choses bien différentes. Tu peux avoir les deux, mais, ouais. Mais les deux seront complètement différents. Le strongman, par exemple, le gars qui soulève des charges énormes, tu le mets sur un anneau, je pense qu'il a beaucoup plus de difficultés.
Alors, c'est là où ça va être impressionnant. Voilà. Ça va être impressionnant s'il y arrive. S'il arrive, tu vas dire what the fuck,
ouais.
Tu vois.
Là, ce serait très impressionnant.
Mais effectivement que... La tension mécanique nécessaire pour sa croix de fer avec la masse qu'il fait est largement plus importante lorsque le mec il est à 175-180 kg, notamment avec des bras de levier qui sont quand même très imposants, donc par rapport à quelqu'un qui serait d'un plus petit gabarit. Donc ce qui est important de savoir aussi, pour essayer de remettre un petit peu de contexte là-dedans, c'est pourquoi vous voulez être fort. Parce que selon la raison pour laquelle vous voulez être fort, vous n'allez pas pouvoir jouer sur les mêmes paramètres et vous n'allez pas utiliser les mêmes outils non plus. D'accord ? Parce que souvent, on voit être fort comme strictement égal à déplacer des charges lourdes.
Mmh.
Souvent, on va te dire, voilà, bah alors si moi je sais, je vais te faire soulever lourd en squat, développer couché, par exemple, en soulever terre. Donc là, on prend un exemple d'une activité précise, mais qui peut ne pas être spécifique à la raison pour laquelle moi j'ai envie de développer ma force. Donc ça, il faut faire très intéressant. C'est-à-dire que c'est une première question qu'il faut se poser. Dans quel but ? Parce que...
T'as des grandes catégories en tête, par
exemple ? Non, parce qu'il va falloir être capable de décortiquer le geste spécifique, et ça, on verra dans un instant les éléments et comment catégoriser ça. Mais à un moment donné, si vous voulez être fort par rapport à un geste spécifique, bah, va falloir travailler quand même votre force dans ce geste spécifique. Mais donc, du coup...
On a les gens qui veulent être forts parce qu'ils font du powerlifting, il y a des gens qui veulent être forts parce qu'ils font de l'haltérophilie, il y a des gens qui veulent être forts parce qu'ils font de la gym.
Alors tu vois, par exemple, entre le powerlifting et l'haltérophilie, même s'il y a quand même des vraies spécificités,
ouais,
il va y avoir des synergies possibles. Oui. Mais il y a des vraies spécificités. Parce qu'on va être, malgré le fait qu'il y ait des catégories de poids, on va être quand même lié à un travail soit de force vitesse, soit un travail de force max. C'est-à-dire, quelle est la charge la plus lourde que je suis capable de soulever et est-ce que je suis capable de soulever une charge lourde en mettant de la vitesse dessus.
Mmh.
Donc ça, ce sera plutôt le catégorie force max, donc on va dire le mélange entre force et vitesse, le catégorie force explosive, excuse-moi, entre force et vitesse va être plutôt lié justement au mec qui fait du powerlifting. Et le développement de la force max sera plutôt pour la personne qui fera du powerlifting. Donc d'un côté, on va avoir l'haltérophilie.
Haltérophilie, excuse-moi, parce que j'ai mélangé les termes en anglais.
Okay. Et alors, Olympic lifting si on est en haltérophilie, donc c'est Olympic lifting.
Okay.
Et powerlifting si on est en force athlétique. Donc voilà.
Donc c'est la vitesse, c'est vitesse pour.
Vitesse-force dans un côté, dans principalement.
Dans l'haltérophilie.
Dans l'haltérophilie. Et au powerlifting, on va être sur plutôt de la force max. Ouais. Mais en réalité, il y a quand même. Une zone grise. Il y a quand même une zone grise parce que ça n'empêche pas l'haltérophile de travailler sur certains exercices avec des charges lourdes plus proches de la force max. Et ça n'empêche pas le mec qui fait de la force athlétique à travailler sur une capacité d'accélération de charge.
Mmh.
Parce qu'il y a des synergies à un moment donné entre ces différents types de forces quand même. Et à côté, tu vas avoir toutes les activités ou gymniques ou aérienne où on va te demander d'émettre de la force, mais en relation principalement avec ton poids de corps.
Okay.
Donc, après, on va avoir aussi de la force d'endurance, donc ta capacité à pouvoir faire preuve de force avec peu de récup, mais longtemps. Mmh. Donc ça, c'est des activités au CrossFit où finalement au CrossFit, on va mélanger un petit peu tous les types de force parce qu'on va avoir une activité qui va être tellement large en termes de ce qu'on demande que le mec a besoin à la fois d'avoir de la force max, à la fois de la force explosive, à la fois de la force gymnique, c'est-à-dire relativement à son poids de corps. Donc il a besoin d'être lourd, mais il ne faut pas qu'il soit trop lourd, faire attention aussi parce que ça joue. Okay. Après, s'il est très lourd, tant mieux. S'il arrive à avoir une force productive en gym, mais bon, à un moment donné, il y a quand même des limites. Il ne va pas pouvoir être aussi lourd qu'un mec qui fait non plus du strongman. Okay. Donc déjà, déterminer dans quel but vous voulez être fort, ça c'est important. Et après, il y a quand même, malgré le but pour lequel vous voulez être fort, physiologiquement, des phénomènes qui vont être similaires. C'est-à-dire que globalement, pour être fort, il faut quoi ? Ben, il y a quatre principes. Il y a quatre principes. Il y a construction de la masse musculaire, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que proportionnellement à la taille du muscle, un muscle plus gros est capable de développer plus de force. Mais ça, c'est le potentiel de force. Ça ne veut pas dire qu'il sera plus fort, parce qu'on en revient à l'exemple des mecs qui sont très musclés, mais qui ne sont pas capables de soulever peut-être aussi lourd, si on parle de la même force, que quelqu'un qui va être un peu plus fin et qui va soulever plus lourd, ou voire la même charge. Donc, ce n'est pas suffisant. Construire du muscle, c'est un principe, mais ce n'est pas suffisant.
Okay.
Ça va jouer sur l'augmentation de notre potentiel de force, mais ça ne suffit pas. Il y a d'autres choses qu'il va falloir développer.
C'est pour ça que tu dis que la gonflette, ça n'existe pas.
C'est pour ça que je te dis que la gonflette n'existe pas. C'est-à-dire, à part si tu t'injectes du Cintol, donc des produits qui vont juste augmenter
le volume
de ton muscle sans avoir d'effet, on va dire, physiologique. En réalité, une personne qui va augmenter sa masse musculaire, et c'est ce qui se passe souvent chez les débutants au départ, quand ils augmentent un petit peu leur masse musculaire, ils vont aussi améliorer leur mécanisme nerveux, bien sûr, mais on va avoir, ça va s'accompagner d'une augmentation aussi de force. Okay. D'accord ?
Mais donc, c'est principalement potentiel quand même.
C'est un potentiel, c'est-à-dire que physiologiquement, t'es capable d'émettre une plus forte tension mécanique, parce que tu vas avoir plus de masse musculaire, mais il va falloir aussi travailler les autres choses qui en découlent. Ensuite, on a des facteurs nerveux. Donc dans les facteurs nerveux, on va avoir deux choses. On va avoir améliorer le recrutement. Donc améliorer le recrutement à la fois ce qu'on appelle spatial et temporel. Donc le recrutement, c'est ta capacité à pouvoir engager, contracter tes fibres musculaires. Le recrutement spatial, c'est ta capacité à pouvoir engager un plus grand nombre de fibres musculaires. Et le recrutement temporel, ça va être ta capacité à pouvoir engager ces fibres musculaires le plus rapidement possible. Donc il faut à la fois que tu sois capable d'en engager plus, mais il faut aussi que tu sois capable de les engager plus rapidement.
Okay.
Les deux sont importants et les deux se travaillent différemment.
C'est ça qu'on appelle le nerveux ?
Le facteur nerveux, ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas que ça.
Dans le facteur nerveux.
Il n'y a pas que ça dans le facteur nerveux. Okay. Donc il y a le recrutement, mais c'est deux types de recrutement dont je t'ai parlé. Et ensuite, dans le facteur nerveux, tu vas aussi avoir ce qui est lié, ce qu'on appelle à la coordination. Donc tu vas avoir deux types de coordination. Tu vas avoir une coordination qui va être ce qu'on appelle intramusculaire, donc à l'intérieur du muscle. Celle-là, on l'appelle la synchronisation. Donc c'est un synonyme, hein, si tu veux, mais c'est une forme de coordination. On parle de coordination intramusculaire ou aussi, pour ne pas la mélanger avec l'autre, on parle de synchronisation. Donc c'est être capable, si tu veux, à l'intérieur de ton même muscle, de faire en sorte que tes fibres musculaires, au-delà d'en recruter beaucoup, tu arrives à les recruter en synergie, simultanément.
Ok, alors je vais juste faire un récap. Donc, tu t'entraînes, pour simplifier, l'idée c'est de prendre du volume musculaire, donc d'augmenter...
Principalement, alors t'as le volume et la masse musculaire, on va faire attention, parce que sinon on pourrait refaire un autre podcast sur volume et masse musculaire, mais on va dire qu'il y a une synergie sur les deux.
C'est deux choses différentes ?
Oui et non. Mais c'est pour ça. Là, on repartirait sur carrément notre podcast. On en fera un, pourquoi pas, là-dessus. Ça me dérange pas.
Construire du muscle.
Mais construire du muscle.
Okay.
Augmenter les parties, notamment les parties contractiles, ce qu'on appelle les sarcomères.
Okay.
Donc augmenter en fait la plus petite unité contractile du muscle. Ok. Donc ça, c'est construire la masse musculaire.
Et ensuite, ça on l'augmente.
Ça l'augmente ensuite, via l'hypertrophie, via la musculation.
L'objectif, c'est.
Alors, c'est pas dans cet ordre-là. Attention.
Enfin,
parce qu'il faut faire attention. Gros, parce qu'il n'y a pas d'ordre.
Non, je voulais pas dire. Oui, je voulais pas dire qu'il y avait d'ordre, mais dans ma tête, c'est pour comprendre que donc cette partie-là augmente. Parallèlement à ça, Il faut qu'elles se contractent rapidement.
Qu'on les synchronise.
Faut qu'on soit capable de les d'augmenter sa capacité. Alors tu vas construire du muscle. Une fois que tu as construit du muscle, donc tu as développé et grandi tes fibres musculaires, il faut que tu sois capable, ces fibres musculaires qui ont grandi, OK, de les recruter.
Oui.
Donc ça c'est une première chose.
Et après rapidement.
Mais il faut que tu sois capable de les recruter rapidement.
Et après en même temps.
Et après en même temps.
Voilà, c'est exactement sur ce que je voulais venir.
Et maintenant il y en a un dernier élément qui est important mais qui dis-moi.
Alors, j'aimerais qu'on est-ce que ça peut être intéressant pour le recrutement des fibres musculaires de travailler différents types de contractions. Si je te parle excentrique, si je te parle concentrique, si je te parle isométrique.
Bien sûr.
On est d'accord qu'il y a des
dans les facteurs nerveux,
il y a des facteurs qui sont plus intéressants pour le recrutement des fibres, tu vois, pour justement accentuer et accélérer un petit peu ce process. Ouais,
notamment, tu vois, sur par exemple le recrutement spatial, on s'est rendu compte que le travail en isométrie, qui n'est pas suffisamment utilisé, et c'est pour ça que nous, on l'utilise quand même pas mal, il y a de plus en plus quand même. Alors, ça fait longtemps que c'est utilisé. Dans certains domaines, notamment les domaines gymniques, on l'utilise énormément, mais c'est voilà. L'activité qui fait
bien
ça.
Bien sûr, bien sûr.
Et c'est pas forcément des domaines dans lesquels on de muscles traditionnels dans lesquels on a l'habitude de l'utiliser, même s'il y a de plus en plus de personnes qui vont être amenées à l'utiliser. Mais ça peut être très intéressant parce que même si le mouvement est figé dans un premier temps, ok, malgré le fait qu'on soit dans des disciplines où on a besoin d'un mouvement dynamique. Et eh ben ça va être intéressant pour le recrutement, pour pouvoir justement améliorer le recrutement et augmenter le recrutement.
Bien sûr.
Donc voilà. Après, on peut aussi
forcément des tendons aussi, je crois.
Alors ça, ouais.
Ça joue ou pas?
Ça joue. Ça, on peut en parler dans une autre principe parce que dans le travail structurel, tu vas avoir une amélioration du travail structurel de tout ce qui est les parties contractiles, ce qui peut se contracter. Mais après, tu as aussi une amélioration du travail structurel des parties non contractiles. Donc, tout ce qui va être tendineux, les fascias, etc. etc. Donc, ça joue aussi.
D'accord.
Mais globalement, pour en revenir aux facteurs nerveux, pour ne pas perdre les auditeurs, c'est important.
Et pour ne pas me perdre moi.
Et pour ne pas te perdre toi non plus. Il y a un élément dont on n'a pas parlé, qui est pourtant l'élément peut-être le plus simple à faire comprendre aux gens, c'est la coordination, cette fois-ci, intermusculaire. C'est-à-dire la coordination entre les différents muscles. Cette fois-ci, ce qu'on va regarder, c'est les muscles qui vont être sollicités dans un mouvement. Est-ce qu'on va être capable de les coordonner, c'est-à-dire de les contracter en synergie? Okay. Et ça, c'est énorme aussi. Souvent, alors, les mécanismes nerveux, donc les différents facteurs nerveux dont on vient de parler, donc coordination du muscle, donc en intermusculaire, et synchronisation, donc en intramusculaire, à l'intérieur du muscle, et ben, c'est des choses que tu vas améliorer très rapidement avec les débutants. Et que tu peux même voir à l'œil nu. C'est-à-dire que, alors la synchronisation, c'est beaucoup plus compliqué. Il faudrait des outils pour ça. Mais en tout cas, la coordination, c'est simple. C'est-à-dire que lorsqu'une personne, tu lui montres un mouvement et qu'au départ, elle a des mouvements un peu saccadés, c'est-à-dire qu'elle va engager ses quadris, puis ses abdos, puis ses lombaires, et après, elle va remonter. Donc, elle va faire une espèce de pseudo, ce que j'appellerais un squat morning, plutôt qu'un squat. Et bien, au fur et à mesure de la séance, elle va peut-être être capable de soulever une charge plus importante, alors qu'elle avait du mal avec une charge plus faible, tout simplement parce qu'elle arrive à mieux coordonner ses muscles.
Okay, ouais.
Elle n'a pas gagné en force. C'est-à-dire que c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que de manière physiologique, par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure, qui sont la force comme étant l'augmentation de tes muscles, ou est-ce que son 1RM a vraiment augmenté? Non. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est capable d'avoir une meilleure production de force, tout simplement parce que le mouvement est plus simple lorsqu'il est exécuté en synergie de muscles que lorsque les muscles ne sont pas coordonnés.
C'est-à-dire qu'elle exploite elle est davantage capable d'exploiter son potentiel de force.
Son potentiel de force de chacun des muscles. C'est-à-dire qu'on va dire que chacun des muscles a son potentiel de force. Comme elle arrive à le faire en synergie, ça c'est beaucoup plus visible dans des mouvements polyarticulaires ou des mouvements qui vont utiliser ou des mouvements complexes qui vont utiliser plusieurs muscles en même temps. Et donc, du coup, on voit bien que du coup, c'est important aussi ce facteur-là.
Ok, très clair. Donc là, on a parlé de deux des facteurs de force.
Il en reste deux.
Il en reste deux encore.
Ouais. Il y a un facteur dont on parle pas assez souvent parce que souvent, en fait, ce facteur-là, on l'intègre dans ce que je t'ai dit il y a un instant, la synchronisation et la coordination, alors que c'est une erreur de l'intégrer là-dedans parce que ça ne suffit pas. C'est tout simplement l'optimisation ou l'amélioration de la maîtrise technique d'un mouvement. Okay. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est ce que je te disais il y a un instant, Tu veux être fort, mais tu peux être fort de manière globale et avoir besoin d'être fort de manière très spécifique dans un moment donné.
C'est comme ça qu'on dit, par exemple, de certaines personnes qu'elles compensent par de la technique ?
Alors, tu peux utiliser ce terme-là où on dit certaines personnes, et notamment c'est visible ça, ce qui est intéressant, c'est que plus le mouvement est technique, plus finalement la maîtrise de la technique et l'optimisation de la technique va avoir un impact essentiel et non négligeable.
Sur la charge déplacée.
Sur la charge à déplacer.
Typique haltéro.
Typique un arraché ou par exemple, on pourrait prendre le cas d'un muscle-up en gym.
Ok.
Aujourd'hui, malgré ce qu'on peut entendre, on n'a pas besoin d'autant de force que ce qu'on pense pour faire un muscle-up. On a besoin d'un minima, mais en réalité, à un moment donné, c'est l'application productive de la force, donc ma capacité à pouvoir techniquement faire un geste qui va pouvoir me rendre capable de réussir ce geste-là.
Comme un salto aussi, non ?
On pourrait prendre l'exemple d'un salto. C'est-à-dire un salto, on va penser que pour faire un salto, il faut être très explosif, c'est-à-dire avoir une détente de porcasse, etc. Alors pas du tout. Il faut être capable de sauter, faire une rotation et retomber sur ses pieds, mais avec un bon timing.
Okay.
Et en réalité, tu peux être capable, plus tu vas améliorer ta technique, être capable de le faire très proche du sol, c'est-à-dire avec finalement peu de temps à acheter pour la technique. Mmh. Des fois, quand tu te lèves en l'air, en fait, pourquoi on te demande de sauter haut, pourquoi on démarre les débuts en haut, c'est qu'on leur achète du temps face à la gravité pour qu'ils aient le temps justement de grouper, tourner et atterrir. À un moment donné, quand tu arrives à faire ça vite, tu n'as pas besoin de hauteur. Tu peux faire ça presque à ras du sol. Donc là, c'est un exemple qu'on a pris. Et après, et ça, on en parlera parce que ce qui est intéressant sur l'élément technique, c'est que souvent, il y a des personnes qui confondent l'augmentation ou l'amélioration de la force sur des patterns de mouvement. Donc, ce que j'appelle des patterns de mouvement, c'est les patterns de squat, donc des patrons moteurs, donc être capable de squatter. Donc, pas l'exercice squat, hein, mais être capable de squatter. Être capable de faire ce qu'on appelle un pivot de la hanche, donc se pencher vers l'avant, un soulevé de terre, par exemple. Mais il y a différents soulevés de terre possibles. Et être capable de pousser, être capable de tirer. Si ton objectif, c'est d'améliorer ta force sur des patrons moteurs, tu peux utiliser des mouvements spécifiques, mais en réalité, au fur et à mesure de ton développement, tu aurais intérêt à utiliser des variantes des patrons moteurs. Par contre, si maintenant ton but, c'est de t'améliorer ta force pour un exercice spécifique, bah, va falloir faire beaucoup de répétitions sur un seul exercice spécifique. Parce que même si on peut croire, on pourrait penser qu'il y a des systèmes de synergie, oui, il y a des systèmes de synergie en utilisant différents exercices pour le même patron moteur. Par contre, à un moment donné, lorsqu'on va être sur un mouvement très très technique ou un mouvement très spécifique, il va falloir avoir une technique optimale et ça va passer par de la répétition, de la répétition, de la répétition d'un même mouvement.
D'accord, donc tu différencies le patron moteur et l'exercice spécifique.
Exactement.
Et qu'en voulant augmenter ta force sur un exercice spécifique, tu auras beaucoup plus de répétitions à faire sur cet exercice spécifique.
Plutôt que de variété d'exercices.
Pour améliorer le schéma moteur sur cet exercice spécifique, contrairement à l'amélioration de force sur un patron moteur où là,
global,
où là, tu auras tout intérêt à varier.
Sauf quand tu es débutant. Tout simplement parce que la variété...
Alors, varier les exercices, mais avec le même patron moteur. On est d'accord ?
Alors, tu as le même patron moteur, mais si ton but, c'est d'avoir une force, on va dire, plutôt globale, une fois que les bases sont installées, parce que les bases s'installent de toute façon avec peu de variété d'exercices, ça c'est vrai.
Ok.
Parce que plus t'es fort finalement sur un mouvement, plus t'es capable, lorsqu'on t'amène des variations, de varier rapidement.
De transférer
rapidement. Par contre, aujourd'hui, si ton but c'est d'être fort que sur un mouvement, t'as pas trop d'intérêt. En fait, ça pourrait être une perte de temps de varier constamment les exercices.
Okay.
Parce que oui, tu vas continuer à travailler ton pattern de squat, mais par contre, tu vas perdre du temps sur une technique spécifique d'un mouvement.
C'est pour ça que les powerlifters qui veulent être bons en soulevé de terre, en squat et en bench...
Ils vont répéter un mouvement et même par rapport à leur...
Ils vont faire beaucoup de répétitions en squat, en bench...
Ça devient presque un réflexe en fait. Hein.
Alors faire attention parce qu'un réflexe, c'est...
Au niveau de la technique, tout est corrigé
en par cœur. C'est un automatisme.
Ouais, voilà, c'est un automatisme.
Je vois rarement, par exemple, des powerlifters... travailler beaucoup de variantes sur le soulevé de terre, enfin contrairement à ou deux mouvements de hinge, je veux dire, je les vois pas faire un, ils ont pas un panel de mouvements de hinge hyper développé par rapport à par exemple moi les trainings
parce que c'est pas le même, c'est parce que c'est pas le même objectif.
Oui,
alors après ça peut
c'est différent.
On en reparlera que malgré le fait qu'on ait des objectifs de force bien précis, on peut quand même sur certaines phases de ta prépa, et ça on en reparlera à la fin, utiliser une méthode un peu différente, okay, notamment sur du travail de décharge ou notamment sur du travail préparatoire ou du travail entre... Donc, tu peux quand même, même si ton but, c'est d'être super technique sur un mouvement, à des moments, en fait, travailler des variantes. Okay. Par contre, le volume que tu vas passer à le faire sera beaucoup plus faible que finalement quelqu'un qui va tout le temps varier. Et alors, tout le temps varier, il faut faire aussi attention. Parce que si tu varies tout le temps, mais que tu n'arrives pas à créer suffisamment de constance dans l'exécution d'un pattern de mouvement, finalement, en fait, il vaut mieux pendant une période de temps rester sur un exercice pour développer un pattern avant de passer à un autre exercice. Mm-hmm. D'accord ? Mais tout dépend de ce dont tu as besoin, en fait. Ça, il faut faire attention. Et ensuite, le dernier point qu'il va falloir aussi améliorer.
Après, donc, vas-y, refais un récap. Après.
Alors, donc, augmentation de la masse musculaire ou développement de la masse musculaire, amélioration des facteurs nerveux dont on a parlé, amélioration, optimisation et maîtrise technique.
Voilà.
Et ensuite, le quatrième point, c'est tout simplement désensibiliser certains mécanismes de protection.
Okay.
C'est-à-dire que tu as certains mécanismes de protection, notamment au niveau de certains mécanorécepteurs, on appelle ça les organes tendineux de Golgi, et ben, qui sont des mécanismes qui vont naturellement, lorsque ton corps perçoit une trop grande tension musculaire, une trop grande tension mécanique, qui vont agir comme un disjoncteur et qui vont diminuer ton potentiel de force. C'est-à-dire que le potentiel de force que tu as va être shut down, donc va être un petit peu coupé, parce qu'il dit, oh, attention là, il y a tellement de tension, ça va déchirer du muscle, ça va faire péter un tendon peut-être, etc. Donc c'est des mécanismes qui sont bien là pour une raison. Par contre, quand tu commences à vouloir faire de la performance, bah, tu as besoin de désensibiliser un peu ces mécanismes, parce que c'est des mécanismes qui sont très conservateurs, c'est-à-dire que c'est des mécanismes qui ont vraiment leur utilité dans la vie de tous les jours, qui ont vraiment leur utilité face à la capacité que le corps a de pouvoir s'adapter ou de pouvoir faire face à des risques de blessures trop élevés. Mais par contre, ça peut te bloquer, et du coup, on en reparlera aussi, mais il va falloir aussi être capable, et il y a certaines méthodes, notamment à force de soulever des charges lourdes, tu as tendance à désensibiliser un petit peu ces mécanismes. L'idée, c'est de pousser le seuil progressivement et pas trop rapidement, parce que sinon, à un moment donné,
ah oui, t'as l'accès à la blessure. C'est comme ça que, je connais pas le nom du mouvement, mais par exemple, en haltérophilie, je vois des athlètes qui chargent beaucoup, juste des racks.
Ouais, alors ça, alors,
ouais,
oui.
Non, c'est,
alors,
c'est dans les
non, 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 en fait, faut pas penser qu'il y a une méthodologie qui va agir sur un mécanisme. Okay. C'est ça le problème. C'est ce là, on essaie d'expliquer aux gens un petit peu comment les différents facteurs fonctionnent et comment les différents principes. Mais en fait, alors, il y a certaines méthodos qui vont plutôt agir sur certains mécanismes que d'autres, mais il y a quand même des effets où on va agir en parallèle sur plusieurs mécanismes à la fois.
Okay.
Mais il faut juste comprendre qu'en tout cas, pour pouvoir améliorer sa force, va falloir agir sur ces différents facteurs.
Ok. Ok. Franchement, c'est trop bien. C'est trop passionnant. C'est bien. On rentre dans des podcasts un peu techniques, mais moi, ça me plaît bien. Dites-nous si ça vous plaît. Si ça vous plaît bien.
Bah, on peut pas le faire en live, mais on espère que ça va.
Oui, bah si, sur Instagram, ils nous le disent.
Ah, c'est bien. Ok, cool.
Est-ce que tu penses que sur la phase excentrique, c'est quelque chose sur lequel on peut accentuer pour justement désensibiliser ce genre de capteur?
Oui, ça peut.
Du fait qu'on puisse mettre. On ait plus de force.
Ça
permet de hacker un petit peu.
Ouais, le travail en excentrique, si on rentre un peu dans les points, le travail en excentrique fonctionne. Le travail aussi pliométrique peut fonctionner aussi.
Okay.
Le travail en plio peut fonctionner. L'idée qu'il faut comprendre, c'est que faut y aller quand même avec prudence avec ces mécanismes. Et au-delà de ça, il faut aussi. En plus de désensibiliser ces mécanismes, surtout renforcer, et c'est là où le travail excentrique est très intéressant, renforcer tout ce qui est justement les parties non contractiles du muscle pour que la structure tienne bien le coup aussi, tu vois ce que je veux dire.
Évidemment.
C'est-à-dire que si tu fais que désensibiliser ces mécanismes mais que derrière tu n'augmentes pas le structurel vis-à-vis de tout ce qui va être les facteurs, on va dire, tendineux ou aponévrotiques du muscle, qui sont non contractiles,
il y a vraiment une charge que tu pourras
supporter. Ça veut dire, pour faire attention. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en général, la désensibilisation de ces mécanismes, c'est ce qu'on voit quand, par exemple, et ça c'est un exemple, quand on a par exemple des personnes qui, via l'adrénaline ou via le fait qu'ils sont un petit peu chauds, sont capables de soulever des charges extrêmes. C'est qu'il faut comprendre que ta force max que tu peux utiliser est ton potentiel max de force. Ton potentiel max de force, il est supérieur à ta force max par rapport à cette protection. Le corps, en fait, il ne va pas aller chercher le maximum de contraction que tu peux émettre, parce que le maximum de contraction que tu peux émettre peut
te faire péter.
Ouais.
Déchirer.
Ouais, ouais, ouais.
Le seul moment où tu peux y aller, c'est notamment quand tu fais du travail avec l'électrostimulation. Et avec l'électrostimulation, tu peux aller chercher presque 100% de ta contraction des fibres, tes fibres musculaires. Mais comme la tension mécanique externe, comme la tension mécanique externe
tu joues pas sur la structure
n'est pas énorme des deux côtés, tu as peu de risques. Ouais. Que, en légère, ça peut pas faire des... tu peux avoir une grosse contracture, mais tu n'auras pas de déchirement. Là où c'est compliqué, c'est quand en plus de ta volonté à vouloir contracter un maximum de fibres musculaires, tu as des tensions mécaniques opposées. Mm-hmm. C'est là où ça peut déchirer.
Ouais, ouais.
Et donc, c'est pour ça, le corps est bien fait. Par contre, quand maintenant ton but c'est de la performance et que naturellement ton corps n'est capable que de contracter, on va dire 80 à 85%, c'est même moins pour des débutants, de son potentiel maximal, bah toi tu as envie d'aller chercher, gratter 5% de plus, 2, 3% de plus, c'est intéressant en désensibilisant ces mécanismes.
Ok. Trop passionnant.
Et tu vois, il y avait une autre chose aussi, sur, je pensais que ça c'était la désensibilisation, c'était le ce réflexe, alors je pense là surtout au squat, parce qu'au deadlift tu l'utilises pas vraiment, mais au squat, alors, sur réflexe myotatique que t'as en bas, qui te permet aussi d'aller chercher.
Alors ça c'est pas de la désensibilisation,
c'est l'élasticité du muscle.
Alors c'est la capacité que ton muscle, en fait ton muscle il a une capacité de contraction, mais il a une capacité d'absorption aussi de l'énergie. L'idée c'est que s'il est capable
c'est
d'absorber
lié,
l'énergie...
Ces deux-là sont pas...
Pas indirectement, oui, mais pas directement.
Ok.
Et ça rentre dans quoi, justement, de jouer sur l'élasticité? Ça rentre dans quel côté?
Alors, c'est un mixte. En réalité, tu vas jouer, quand tu vas jouer sur tout ce qui est l'élasticité, tu vas avoir, en fait, différents principes. Tu as le principe de l'étirement, okay, qui, effectivement, intervient dans les mécanismes de protection, ce qu'on avait, et la désensibilisation de ces mécanismes de protection.
Ok.
Donc, après, ce qu'il faut faire attention, c'est que ton réflexe, c'est quelque chose d'inné. C'est ce que tu me disais tout à l'heure, tu parlais de réflexe et d'automatisme. Un automatisme, c'est quelque chose qui va se construire. Un réflexe, c'est inné. Okay. Par contre, la potentialisation de ton réflexe, notamment avec les organes tendineux de Golgi, comme tu me disais, et ben effectivement, indirectement, en améliorant en fait ton élasticité musculaire, tu vas pouvoir justement, en jouant sur la désensibilisation, aller chercher un petit peu plus.
Ouais, d'accord.
Un petit peu plus loin.
Okay.
Parce qu'au niveau de l'élasticité, tu as deux phénomènes à prendre en compte. Tu as un phénomène passif, en fait, qui est lié à tout ce qui va être tendineux. Et tu as un phénomène actif qui est lié aussi à ce qu'on appelle à la titine, qui est une protéine que tu vas retrouver au niveau de ton muscle, qui va être capable de remettre le sarcomère en place. Et plus ton sarcomère va être mis en place rapidement, plus tu vas pouvoir refournir une contraction musculaire rapide. Et donc, du coup, je t'ai parlé tout à l'heure aussi de ta capacité à pouvoir refournir des contractions musculaires rapides. Ben, ça va aussi jouer sur ta capacité à développer de la force. Et c'est là notamment lorsqu'on va utiliser du travail en pliométrie et autres.
En pliométrie, oui, c'est très intéressant. Ouais.
Okay. Ça me semble pas mal.
C'est pour ça qu'on passe à la suite.
Ouais, je pense que pour un premier podcast un peu technique sur les différents facteurs de force, c'est pas mal. On a fait le tour, c'était assez clair. Moi, j'ai presque tout suivi. Je le réécouterai.
T'étais concentré.
Bah ouais. J'étais en cours là.
Les yeux comme ça, le casque il est là, c'était une danse.
Je vais le réécouter ce podcast, t'inquiète pas.
Ouais.
Merci beaucoup les gars.
Merci Tom.
Il y a moi et qu'on enchaîne sur l'enregistrement d'un autre épisode. Je vais voir avec les garçons. À bientôt. Salut.
Bonne écoute.
Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Retrouvez-nous également sur Instagram @intuitivetraining.fr. Vous pouvez nous y poser toutes vos questions, nous les traiterons sur les prochains épisodes du podcast. Pour les infos sur nos offres de coaching et nos programmes, rendez-vous sur notre site internet intuitivetraining.fr. À très vite !